Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Énorme mood. Enregistrer un podcast avec ses pantoufles, vraiment.
C'est le confinement, mon gars. On est obligé. Donc ouais, t'es le deuxième gars de Mimi à passer dans ce podcast.
C'est... Attends, c'était qui le... Bah, c'était Arthur, le premier.
C'était Arthur.
Le tout premier.
Le tout premier de tous les temps.
Finalement, la boucle est bouclée. Elle a commencé avec Arthur et elle a fini. Après, moi, je passe. Voilà.
Ah oui. Valentin, bonjour.
Fabrice, bonjour.
Valentin, on t'appelle aussi Nodus sur l'Internet.
C'est exact.
T'es connu comme ça?
Oui, mais j'ai eu moult pseudos avant ça, mais voilà, le pseudo actuel, c'est Nodus. Ouais.
Valentin, t'as 22 ans?
23?
Non.
T'as mal fait tes fiches.
Bah non, bah alors là, j'ai pas de fiches.
Non, je
connais mal.
J'ai eu 23 ans cette année. Ouais.
T'as eu 23 ans cette année. Donc, on le disait en introduction, mais effectivement, moi, je te connais par l'intermédiaire de Mimi, qui est désormais ta compagne, n'est-ce
Tout
pas
à, fait.
À la ville, mm-hmm. comme on dit. Et effectivement, tu évolues en grande majorité, enfin, en tout cas, ton job, c'est de travailler sur ce site qui s'appelle Gamekult.
Tout à fait, qui est quasiment aussi vieux que moi, finalement.
Et ouais.
Mais ouais, non.
Ils sont nés quand? Là, 97
on, cette année, on fait les 20 ans.
Ah, ok.
Donc,
ah oui, donc 2000, quoi.
J'avais vraiment 3 ans.
On a un trait en commun, tous les deux.
Ah oui, bah on est tous les deux issus de la meilleure région de France, même de la, je pense, la meilleure région du monde.
Le meilleur département
le non. Meilleur, bah le meilleur. Toi, non, enfin, en fait, moi, j'étais.
Toi, t'es dans le Pas-de-Calais, toi.
Toi, tu viens du Nord et moi, je viens plus du Pas-de-Calais. Ouais. En fait, j'étais vraiment à la frontière entre les deux.
Okay.
Un petit village qui s'appelle Labassé. Enfin, dans toute cette région-là, Béthune, Lens, etc. Donc, très, très les Corons. Un héritage familial très, très minier. Du côté de ma mère et du côté de mon père, c'était l'émigration polonaise. Donc, vraiment, Nord et Pologne. Bah, après, bon, voilà, je suis pas le seul. Il y a beaucoup, beaucoup de Polonais dans le Nord.
Bah, qui sont arrivés justement après la guerre pour venir bosser quoi. Ok, alors moi du côté du Nord, c'est plutôt Roubaix et c'est plutôt toute la filière textile quoi, tu vois. Donc
Ah oui, non mais l'usine du textile de Roubaix, Tourcoing.
Ça aussi, je pense que ça en dit long. Ça a sans doute pas mal marqué ta masculinité.
Oui. Bah mon enfance et du coup mon évolution en tant qu'homme. Le Nord, laisse une grosse empreinte sur les gens. Enfin moi c'est un truc que je voyais sur mon père hein, beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ouais non. Les familles du Nord et les darons du Nord en fait ont vraiment ce truc du Nord et c'est un milieu social qui te fait évoluer d'une certaine façon.
T'as pas vraiment le choix, je pense. Ouais. Donc tu connais la première question j'imagine.
Mec la première question ça fait une semaine que j'ai réfléchi et tout.
C'est quoi pour toi être un homme?
Eh ben, je pense que je vais t'offrir le traditionnel E de. non, mais en vérité, bah, j'ai pas de réponse donnée à la question. Et je pense que de toute façon, si on avait une réponse donnée, bah, on ferait même pas ce genre de podcast parce que du coup, on réfléchirait pas à ce qu'est être un homme et ce qu'est la masculinité. Donc, j'ai pas de réponse définitive. Ma seule réponse, c'est celle basée sur mon expérience et. En vérité, c'est une question que je m'étais pas forcément posée jusqu'à présent. Et on en parlait juste avant, mais quand j'étais plus jeune et quand t'es dans ta campagne du Nord, etc., bah t'as un milieu social et des modes de pensée qui, la masculinité, le féminisme, etc., t'en as vraiment rien à foutre. Et c'est des choses que tu vas découvrir généralement en allant vers entre guillemets la grande ville.
Ouais.
Et donc non, c'est une question que je me suis posée assez récemment et je pense que c'est être un homme c'est j'aime pas trop faire de distinction entre être un homme et être une femme mais force est de constater que aujourd'hui il y a quand même des différences et je pense que c'est juste pas être con et si par exemple toi tu comment dire si par exemple tu peux essayer de faire de parler enfin Je pense que c'est beaucoup plus plaisant, enfin beaucoup plus intéressant du moins, d'être un homme aujourd'hui que d'être un homme, par exemple, à l'époque de mon daron, parce que ce genre de discussion-là, on les avait pas. Et aujourd'hui, le débat s'est ouvert et la discussion est là, et je pense que c'est cool. Mais non, après, je...
C'était plus simple aussi, non? Tu crois pas?
Beaucoup plus simple.
Beaucoup
plus simple,
moi,
ouais,
ma vie...
À moi, ma vie, c'est ça. Moi, c'est... Ouais, non, c'était beaucoup plus... La distinction était beaucoup plus claire. Et, mais là, voilà, cette frontière-là s'estompe, et c'est cool qu'on en discute. Mais ouais... En fait, je pense que j'avais tellement déjà de mal à savoir c'est quoi être moi, que réfléchir à c'est quoi être un homme, c'était genre l'étape d'après. Déjà, on va essayer de voir comment moi je fonctionne, et ça j'ai mis du temps, et je suis même pas sûr de l'avoir d'avoir répondu à cette question. Donc ouais, après bah voilà, mon plus gros référentiel, bah forcément ça va être mon père, sur c'est quoi être un homme et c'est quoi être un père. J'en tire du bon et du mauvais, surtout sur la partie c'est quoi être un père. Sur une grande partie de mon existence, être un homme, ça va essayer de, bah c'est con à dire, mais ne pas refaire les erreurs de mon père, je pense.
Si tu veux, on rentre tout de suite dans le lourd, hein, parce que là, tu me tends une perche.
En roue arrière, direct.
Parce que c'est quoi la relation que tu avais à ton père? Parce que je spoil avec ma question. Je connais déjà la réponse.
Bah là, oui, que j'avais, puisque mon père est décédé l'an passé, en fin d'année dernière. Et une relation très compliquée qui était fatalement déjà... qui était un peu dirigé par le fait que les familles du Nord et le rapport père-fils dans ce milieu social-là, il n'y a pas beaucoup de discussions, il n'y a pas beaucoup d'échanges, il n'y a pas beaucoup de... On va parler de nos émotions. Et mon père était quelqu'un de violent et d'assez assez manipulateur et mesquin. Et on n'arrivait jamais trop à le cerner et on ne savait pas... j'avais assez peu l'occasion de discuter avec lui, d'avoir des vraies discussions vraiment deep avec lui. Et durant longtemps, ma relation avec mon père était une relation de peur. Et il y a un truc qui me... Ça, du coup, j'y ai pensé en réfléchissant à la première question. C'est une peur, je pense. C'est une peur qui est de plus en plus naissante chez moi. C'est, tu sais, enfin, je sais pas si tu connais cet adage qui dit tel père, tel fils, c'est généralement les comportements qu'on observe chez un parent ou chez un père, par exemple, on peut les retrouver, il y a une possibilité qu'on les retrouve plus tard chez l'enfant. Et moi, c'est un truc qui m'effraie au plus haut point et qui, tous les jours, à chaque truc que tu vas faire, à chaque. Toutes les quelques histoires amoureuses que j'ai eues, par exemple, c'est tu vas constamment te remettre en question sur et si en fait j'étais un mec nul, et si j'héritais des trucs nuls de mon père, et si en fait j'étais un con. Et c'est un truc qui me fait peur. Je suis convaincu que avoir ce recul là et réfléchir à la question et savoir qu'au final je suis content d'être la personne que je suis, ça fait que je suis déjà pas comme ça, mais c'est un truc qui m'effraie. Enfin, t'as peur que ce truc-là soit genre plus fort, que la nature soit plus fort que toi. Et c'est un truc qui me fait peur.
Et après, je pense aussi que c'est pas forcément qu'une question de nature, c'est une question de référentiel aussi, et de trucs qui sont très profondément ancrés en toi, qui sont limite inconscients.
Ouais.
Ou quand tu disais que t'as une relation de peur avec ton père, et peut-être, tu vois, il a été violent avec toi, etc. Il y a des trucs que t'as forcément internalisés dont t'as pas conscience aujourd'hui, qui peuvent ressortir de façon complètement random.
Ça, c'est des trucs qui, c'est des petites graines qui sont plantées là et que durant longtemps, c'est des trucs qui vont germer plus tard et qui vont peut-être déclencher des choses plus tard. Et une grande partie de mon enfance, ça a été, ça rejoint ce que je te disais quand je disais que j'avais beaucoup de mal à savoir déjà c'est quoi être moi, parce que beaucoup de ces émotions-là, beaucoup de ces problèmes et de ma façon de gérer ma vie familiale de l'époque, qui était quand même très complexe, c'était de mettre tous ces problèmes-là dans une case, dans ma tête, et genre la fermer à double tour, et jeter la clé dans la mer, et peut-être qu'on verra jamais la clé, j'espère qu'on va jamais la revoir, mais...
Et déjà, ça marchait pas. Hein.
Mais voilà, et de plus en plus, depuis la mort de mon père, particulièrement, j'en éprouve pas forcément le besoin, là tout de suite, mais une envie, de plus en plus, je pense que je vais aller voir un psy, et du coup, juste, discuter, et parler, et même si... Et enfin, c'est un truc qui pourrait, je pense, me faire beaucoup de bien, et c'est super intéressant pour éviter que ces trucs-là, sans savoir trop pourquoi, tu vois, dans 20 ou 25 ans, reviennent au. Enfin, je sais pas, se ressurgissent. Et...
Mais t'es jeune, en fait, pour avoir perdu ton père. Ça t'a fait quoi quand. En tant que gars, de perdre sa figure paternelle.
Bah, c'est un truc. En fait, bah, t'as le. T'as ce truc où forcément t'arrives pas à traiter ce qui vient de se passer, t'arrives pas à comprendre, et bah t'as les étapes du deuil classique, j'ai envie de dire, tu vas pleurer, tu vas peut-être être en colère, l'impression de manque, etc. Mais aujourd'hui, avec du recul, bah c'est vraiment surtout une impression qu'on m'a arraché un bras ou qu'on m'a arraché un bout de mon cœur, et que même si voilà il était la personne qu'il était, il avait ses défauts, etc., c'est quand même quelqu'un que j'aimais et que j'aime profondément. Et que je donnerais tout pour revoir aujourd'hui. Et ben non, c'est t'as l'impression d'un manque qui pourra jamais être recomblé. Et bah tu parlais de figure paternelle, bah j'ai échangé assez peu de choses à ce niveau-là avec mon père. On parlait pas de, par exemple, on n'a jamais trop parlé de, enfin il m'a jamais trop parlé en tout cas de c'est quoi être un petit garçon, c'est quoi devenir un ado, c'est quoi devenir un homme. Et j'aurais bien aimé moi plus tard pouvoir lui demander c'est quoi être un homme et c'est quoi genre papa là je vais me marier, ou papa là j'ai rencontré quelqu'un, ou papa là il y a un truc et tout ça, en fait j'ai que je pourrais pas le faire, et ça m'effraie, c'est une vraie peur. Je me souviens que je faisais dans la semaine où il était décédé, j'avais fait un cauchemar horrible où genre je rêvais que je me mariais, et t'avais genre, c'est les rangées de chaises un peu comme dans les mariages américains, et il y avait une chaise pour ma daronne, pour ma sœur qui était assise, et à côté il y avait une chaise vide, et genre je me suis levé le matin, j'ai fait putain, vraiment mon cerveau me dit que on va peut-être retraiter ce truc plus tard. Et non c'est, après je me suis aussi pendant longtemps demandé, et c'est un truc qu'on s'est demandé aussi avec ma sœur, et enfin là-dessus je vois que je suis pas le seul, t'as toujours ce truc de culpabilité nulle quand, bah voilà, tu vas pleurer pendant longtemps au début, et après quand ça s'estompe, bah tu te rends compte que c'est pas que tu l'oublies, mais tu vis avec, parce que t'es obligé en fait, sinon tu vis plus. Et après tu te rends compte, bah voilà, que tu pleures plus, et peut-être bah t'y penses plus, et t'as l'impression d'être, je sais pas, un mauvais gamin ou une mauvaise personne parce que t'as oublié ça et tu le mets de côté. Alors qu'en fait pas du tout. Après tu te rends compte en parlant à des gens que bah il y a différentes façons de gérer le deuil, et voilà. Et moi quand j'avais perdu ma grand-mère aussi, j'avais eu aucune larme, j'avais jamais pleuré, et tout le monde pleurait, tout le monde était dévasté et tout, j'étais triste au fond, j'avais 13-14 ans je crois, et mais par contre j'avais jamais pleuré, et je m'en étais voulu pendant des mois et des mois d'être un mauvais gamin. Et mon père en plus, bah pour le coup c'était extrêmement moche.
C'était ta grand-mère paternelle.
Grand-mère paternelle, ouais. Et mon père qui me claquait des trucs genre, t'es un mauvais gosse, mamie elle est partie à cause de toi et tout. Enfin, des trucs atroces, tu vois.
Abject, à cause de toi.
Abject, t'as lâché un gosse. Mais non, un rapport extrêmement compliqué avec mon daron. Vraiment un rapport qui est... C'est une personne dont j'ai eu peur, que j'ai haï autant que j'ai aimé. Vraiment les trois à la fois, et les trois de la même façon. Et ça m'a ôté un poids aussi, le fait qu'il s'en aille. Je savais que ça allait arriver, voilà, au rythme où, enfin, il avait un mode de vie qui était très autodestructeur, parce que justement il avait hérité de ces schémas-là, et comme ça n'allait plus dans sa famille, bah, il se renfermait, et voilà, il vivait seul, et bah, nous on était impuissants. T'as ce truc de, t'es un enfant impuissant en fait, ton père va pas bien. Mais il ne veut pas forcément t'en parler, ou alors quand il te voit, bah, tu revois les schémas violents renaître. Et du coup, bah, après, tu prends tes distances fatalement. Donc, ouais, non, enfin, on savait que ça allait arriver, on ne pensait pas que ça allait arriver si vite. Et là, ouais, ça m'a aussi ôté d'un poids. Je sais qu'il va mieux en l'état, enfin, il va mieux là où il est, et il souffre moins. Et ça, c'est. Ouais.
Et puis, si tu peux. Je pense aussi passer à côté de... Enfin, en tout cas, t'éviter ce genre de remarques-là qui pouvaient te balancer quand t'avais 13-14 ans à la mort de ta grand-mère. Je pense que, d'une manière générale, c'est cool, quoi.
Ouais.
Ça doit être dur à vivre.
Ah ouais, non, c'était dur à vivre. Il y a... C'est marrant parce que ben, quand je te parlais tout à l'heure du fait d'avoir mis des trucs dans un coin de mon cerveau et de jamais l'avoir ouvert, il y a parfois des trucs qui vraiment m'étonnent avec le fonctionnement de ma tête. quand je parle parfois avec ma mère et ma sœur, et on a de plus en plus de discussions super ouvertes où justement on reparle de notre enfance, de tout ce qui s'est mal passé en fait dans la séparation de mes parents. Et parfois elle me raconte des trucs. Et elle me dit, mais Valentin, mais tu te souviens pas de ça? Tu te souviens pas de ce moment-là? Tu te souviens pas qu'il avait fait ça ou que t'avais fait ça, etc.? Et moi, mon cerveau, il a complètement effacé. Genre vraiment corbeille, vidé à la corbeille, il a tout fait. Et c'est je pense que c'est peut-être soit un mécanisme de défense ou je sais pas.
Mais c'est sûr, hein,
ouais,
je pense.
Enfin, j'ai oublié les choses, j'ai mis les choses de côté au point de les oublier. Et ça m'effraie ça parce que, ouais, enfin, c'était ma façon à moi de gérer le truc. C'était dur. C'était, enfin.
Ouais.
T'avais aussi une somatisation, enfin en tant que gosse, t'avais une somatisation physique, genre j'avais
t'avais de l'eczéma ou
pas de l'eczéma, mais à l'époque, attends, ils s'appelaient comment? La trichotillomanie.
Oh.
Ouais. Le fait de se, tu sais, de s'arracher les cheveux, les cils et tout. Et j'étais turbulent à l'école, mais genre turbulent 3000. J'étais hyperactif. Je me renfermais beaucoup sur moi-même, énormément. Étant ado, etc., c'est un truc qui est resté un petit peu. Mais ouais, c'était beaucoup, beaucoup gérer mes problèmes avec moi, comme aussi j'ai été séparé de ma mère et ma sœur il y a 2 années, en fait. Donc ma mère et ma sœur sont parties en 2011, et moi, il y a 2 années que j'ai fait seul avec mon père dans la maison familiale, et donc je pouvais plus trop parler avec elle, parce que voilà, il y avait des trucs où c'était extrêmement compliqué. Donc mes problèmes, en fait, et mes problèmes émotionnels, je devais les gérer seul, et je les gérais généralement en jouant aux jeux vidéo ou en restant seul, en écoutant de la musique, pas vraiment en réfléchissant à mes problèmes, mais juste en les mettant de côté.
C'est bien, le cerveau, il est bien foutu, tu sais. Il sert vraiment à nous protéger, hein, tu vois. Donc
ouais, mais j'espère que dans 10, 15, 20 ans, il va pas toquer à ma porte et dire, au fait, maintenant, on va gérer ça, quoi.
Ouais. Oui. Tant que t'as pas de soucis avec, en fait, mais si, effectivement, si ça finit par sortir, je pense que c'est cool de finir par les voir.
Après, je pense pas, au fond de moi, je pense pas ça. Enfin, je pense pas, là, actuellement, avoir de soucis avec ça. Et je pense au contraire que je me suis plutôt bien relevé de tout ça, à la fois la mort de mon père, mais aussi toute la séparation et ce qui est arrivé dans les années qui ont précédé. J'en tire beaucoup de mauvais, des très mauvais souvenirs et des choses que jamais j'ai envie de revivre, mais aussi, ouais, comme je l'ai dit, du recul, de l'évolution et des choses à ne pas faire et des choses qui m'ont fait grandir.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
On va reparler juste après des trucs, enfin des mauvais souvenirs qui t'ont fait, à quel point ils t'ont construit toi en tant que mec. Mais avant ça, en fait, je voudrais citer un commentaire qui a été fait sous l'épisode d'Histoire de Daron. Mm-hmm. Donc c'est mon autre podcast, pour les gens qui n'écoutent pas mon autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où l'épisode 7, en fait, je m'étais dit, tiens, je voudrais interviewer un grand-père autour de moi, et j'en avais pas forcément, et je me suis rendu compte après comme un con que bien sûr mon père était un grand-père, puisque je suis moi-même papa. Je me suis dit, c'est marrant, parce que non seulement il est grand-père, mais en plus ça va être l'occasion d'avoir cette discussion chelou que t'as jamais avec tes parents, de c'était quoi pour toi être mon père ou être ma mère, quoi, tu vois.
Et puis c'est cool qu'il soit pris au jeu, en fait, parce que ça, c'est...
Oui.
C'est cool d'avoir ce recul-là et qu'il soit dit, ok, maintenant il est temps et on va en parler. Sans filtre, quoi. Tellement sans filtre que je me souviens qu'il avait pleuré.
Pleuré lourd, en fait, parce que mon grand-père est mort juste avant que je naisse. Donc lui, il était tout jeune. Enfin, tu vois, il avait 29 ans.
Ok.
Et Et en fait, dans la famille, on a souvent entendu parler, tu vois, de la mort de mon grand-père juste avant ma naissance, etc. Mais tu vois, pour moi, c'était un sujet récurrent, ouais. Mais pas triste, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, mon père a 75 ans, et on commence à parler de cet épisode, et en fait, il se met à s'écrouler en larmes. Vraiment. Ou moi-même, je suis étonné en fait de à quel point il part vite. En fait, il a pas eu d'émotion intermédiaire. Il part juste en larmes directes. Donc je suis un peu étonné. Et après, à la fin, on en reparle et en fait, il se remet à pleurer. Et alors, hors micro, après, il a pleuré pendant 2 heures. C'était le jour de Noël. Enfin, ça lui a débloqué des trucs. Je pense qu'il avait jamais vraiment peut-être pleuré ou la mort de son père est d'autant plus dure qu'il vieillit, tu vois, aujourd'hui, de se dire qu'il n'a pas pu, des trucs bêtes du style montrer ses enfants à son père. Enfin, tu vois, c'est que des trucs, je pense, tu te coupes et quand tu finis par y réfléchir, ça te revient en pleine gueule, quoi. Ouais. Et en fait, sous la vidéo YouTube de ce podcast, il y a quelqu'un qui a écrit, et je pense peut-être ça va te parler, parce que moi, vraiment, ça m'a parlé. « Ah là là, ces pères du Nord versés dans l'abnégation dure et silencieuse, qui s'oublient, qui s'interdisent tellement de vivre des choses belles qu'ils en meurent juste avant. J'ai entendu beaucoup trop d'histoires de ce genre pour croire à un hasard régional. Sans rentrer dans les détails, je compatis avec la douleur de ton père. 3 ans après... ou 40 ans après, j'ai l'impression que d'avoir grandi dans le Nord te rend beaucoup trop désarmé face au drame de la vie. Merci à lui et à vous deux pour ce joli témoignage plein d'amour, simple et pur. Il y a un vrai truc, les pères du Nord.
Ah, mais je pense qu'il y a... Je pense vraiment qu'il y a un truc. Bah, tu disais justement, tu avais vu ton père pleurer durant cet épisode. Moi, par exemple, j'avais vu une seule fois mon père pleurer. C'est un truc qu'il cachait tout le temps c'est ce truc typique de cacher ses émotions et après j'ai peut-être eu de la chance parce que il a pas non plus il communiquait pas trop, il s'ouvrait pas trop, mais il y a jamais eu ce truc soit un homme ne pleure pas, soit viril, etc. Ça par contre juste il s'en foutait, il m'embêtait pas avec ça. Mais
il était comment, il était violent comment avec toi?
Beaucoup de violence psychologique, ouais. Et parfois de la violence physique avec moi, ma mère, ouais. Mais énormément de... Enfin, je pense que je vais pas peut-être tout raconter parce que sinon le podcast va durer 8h20, mais en fait, ouais, beaucoup de... Il mettait la pression sur nous et tu sais, il se séparait parce que ça n'allait plus bien avec ma mère. Il utilisait les enfants. Ah. entre la séparation, et donc du coup ça amenait beaucoup de ça amenait beaucoup de violence, il se battait souvent, nous soit on intervenait soit on n'intervenait pas parfois, il nous manipulait. Moi il m'avait manipulé pendant extrêmement longtemps au point que il m'avait interdit de voir ma mère et limite ça m'allait, tu vois, et il m'avait complètement retourné la tête, il me faisait faire des trucs genre des attestations pour les JAF et tout, enfin des trucs lunaires.
Ah oui.
Ça fait partie de ces trucs-là que mon cerveau, par exemple, a décidé d'effacer. Tu vois, je m'en souviens vaguement, mais quand on en parle avec ma mère, qui, en fait, maintenant qu'on en parle, elle comprend et, elle m'en voudra jamais, tu vois, elle m'en voudra jamais elle-même et voilà. Et moi, je me sens tout le temps terriblement con parce que j'avais 12-13 piges et tu sais pas, tu penses pas à cet âge-là.
Bien sûr.
Ça fait partie typiquement des trucs que j'ai tellement mis de côté que je m'en souvenais plus, quoi. Donc ouais, non, beaucoup de violences psychologiques qui étaient installées comme ça, au point que tous les putains de jours où moi je rentrais à l'école, je rentrais de l'école, donc plutôt que lui qui rentrait assez tard du boulot, t'avais ce truc de, dès que t'entends la grille de la maison s'ouvrir, c'était une grille avec un bip, et donc dès que le bip résonnait dans le garage, moi j'avais la boule entre, tu vois, immédiatement, et c'est cette peur de, encore un soir, quand j'y vais seul avec lui aussi, c'était tout géré. C'était géré. En fait, tout ce qu'habituellement il se divisait entre mon père et ma mère, là, moi je faisais tout. C'était faire ses lessives, c'était repasser, c'était faire à bouffer, tu vois, à 14 ans ou à 13 ans. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, maintenant, je sais repasser. Je fais très bien les chemises, je suis content. Mais plein de choses comme ça. Et bref, violence physique. Toujours à la frontière de si c'est une fessée ça passe, Mais bon, quand même, tu vois, c'est quand même une grosse fessée.
Ouais.
Et ouais, non, il était violent. En fait, il était violent tout le temps dans la façon. Et c'est. Je parlais avec Mimi justement récemment d'un truc dont elle m'a parlé que je connaissais pas. La communication non violente, le fait de jamais trop, tu vois, être dans le conflit et genre s'énerver et être violent pour régler un problème, mais plus dire ce que toi, comment ça t'affecte.
C'est ça, la communication non violente, c'est pas tu m'as fait ça.
Voilà, c'est ce que ça me fait.
Voilà, exactement.
C'est voilà ce que ça me fait et le fait que le fait de voir ça me faire sentir ça et voilà. Mon père c'était jamais ça. Mon père c'était pour le peu que je m'en souvienne. Vraiment toutes les fois, même quand il m'aimait, putain, j'y avais jamais pensé, même quand il m'aimait et quand il me témoignait qu'il m'aimait, il me disait jamais je t'aime, hein. Il me l'a quasiment jamais dit, je crois, une fois quand il pleurait, mais même quand il me témoignait des signes d'affection, c'était généralement par la violence et c'était petit con, ou genre ou alors une tape un peu chelou, ou alors il m'insultait, et après t'avais toujours ce truc de oh mais t'inquiète c'est une boutade, enfin des trucs comme ça. Et non il a toujours été violent dans tout. Et après lorsqu'on vivait à deux, voilà, heureusement il était plus avec moi, mais il y a des trucs, enfin il y a des fois où voilà il avait porté plainte contre moi, j'avais dû appeler les flics à la maison parce qu'une fois il avait ramené, je crois, il était bourré, il avait pris la voiture et il avait ramené des sans-abri à qui il avait donné de l'argent. Et genre, il les avait invités le soir, et, alors que moi j'étais là, j'avais genre 12 ans, tu vois. Et ils écoutaient de la musique à fond jusqu'à 5h du mat, enfin vraiment des trucs. Ce genre de trucs, quoi. Beaucoup de. C'est ça, en fait, c'est une pression permanente et beaucoup de violence, enfin, tu savais que généralement quand il était là, ça allait pas bien se passer, quoi. Ça allait généralement pas bien se passer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Comment t'as la sensation que ça t'a construit, toi, en tant que mec aujourd'hui?
Très vaste question aussi. Hein. Très,
ouais, ouais.
Très compliqué. Je pense qu'en fait, le fait d'être souvent seul et de mettre aussi renfermé, ça aide à essayer de comprendre un petit peu, qui t'es. Et un truc qui m'a souvent défini durant les années qui ont suivi tout ça, c'était j'ai pas envie d'être ça, et j'ai pas envie de je l'aime du profond de mon être, mais il y a des choses chez lui que je déteste et que je n'ai absolument pas du tout envie de reproduire. Et ça a été me construire autour de ça et d'être quelqu'un de d'essayer d'être quelqu'un de gentil, de parfois naïf, un peu con, ça m'a souvent joué des tours, mais
c'est pas mais pas naïf à côté d'un peu con, quoi, tu vois, parce que tu reparles de quoi, tu parles de cette histoire d'attestation là, c'est ça?
Non, justement, j'étais dans un opposé où parfois je voulais être trop,
trop gentil,
comme je voulais pas être méchant, je voulais être trop gentil.
Okay.
et du coup tu te fais marcher dessus, enfin. Ça m'était, ça m'arrivait, typiquement au lycée, collège-lycée, j'étais vraiment une sorte de. Soit j'étais un mec renfermé, je n'existais pas. Je n'existais pas, quoi.
Soit t'étais un mec renfermé, soit.
Enfin, soit j'étais un mec renfermé, soit je faisais. Je faisais figure de mec rigolo, ou je faisais rire la galerie, etc. pour. Faire oublier que j'étais ce gars-là, et faire oublier que j'étais renfermé, et faire oublier qu'au fond ça n'allait pas. Et ma façon à moi, c'était d'être turbulent et de faire des conneries, ou de faire rire en faisant l'idiot. Mais comment ça m'a fait évoluer et comment ça m'a fait grandir? Alors vraiment, le processus précis, j'en ai aucune idée, parce que je considère que c'est limite une anomalie. Quand je pense à mon passé, à la façon dont, en plus, on parlait de ce milieu du Nord, etc., tu peux assez facilement vriller, tu vois. Il suffit que bah, tu sois seul, il suffit que tu sois seul tout le temps avec tes problèmes et que tu deviennes un homme pour que voilà, tu puisses tomber dans des travers comme la clope, l'alcool, etc. et te détruire à terme si tu ne parles pas et des trucs comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai peut-être commencé à vivre quand j'étais seul, quand j'avais commencé mes études, et voilà, je commençais un peu à partir en couille, et j'aurais pu partir en couille, mais après voilà, c'est se rattraper et justement essayer d'être le contraire de ça, quoi. Mais je j'ai aucune idée de comment c'est arrivé. Vraiment, j'ai aucune idée de pourquoi je suis la personne que je suis et par quel, enfin, je vais pas dire miracle parce que c'est un peu prétentieux, mais je suis content de la personne et l'homme que je suis.
Quand tu disais que t'as failli partir en couille, ça veut dire quoi?
Ah, c'était, bah, par exemple, c'était des moments où j'étais plus trop en contact avec ma famille, je séchais les cours, on séchait les cours avec, tu vois, enfin, c'est vraiment des trucs cons d'ado, mais, enfin, genre, sécher les cours de la fac pour aller fumer avec un pote, enfin, ce genre de trucs vraiment cons. Mais, en fait, voilà, c'est un cercle vicieux où, bah, si ta façon à toi de gérer tes problèmes, c'est de tomber là-dedans, bah, tu peux très très vite t'éloigner de ta famille, t'éloigner des tiens et finalement des gens qui te veulent du bien. Et c'est là, je pense, que j'aurais pu, si tu restes là-dedans, en fait, bah, à terme, effectivement, rattraper les schémas que je pouvais observer chez mon père, par exemple, qui lui, pour le coup, avait une vraie tendance autodestructrice, qui, voilà, il buvait beaucoup, il fumait beaucoup, enfin, vraiment énormément. Et ouais, enfin, en fait, vraiment des... J'aurais pu mal tourner avec mon passé. Enfin, j'aurais pu. Surtout que j'ai pas spécialement été. J'ai pas spécialement été encadré par un psy. Et voilà. Enfin, je l'ai été très jeune quand j'étais vraiment gosse. Mais depuis, en fait, ado, jamais vraiment.
Pourquoi t'as été encadré très jeune par un psy quand t'étais vraiment gosse?
Parce que j'étais à l'époque. Enfin, je sais pas si. À l'époque, on appelait ça précoce. Tu sais, les célèbres.
À l'époque,
c'était précoce hyperactif. Mm. Et quand j'étais, je crois que c'était au CP.
6 ans.
J'avais.
5-6 ans.
5-6 ans. J'avais sauté une classe, après j'avais sauté le CE2. Donc ça faisait deux classes.
T'as sauté deux classes.
Et en plus, comme j'étais né en fin d'année, en fin scolaire, en juin.
Ah oui.
Ça faisait que j'avais toujours entre 2 et plutôt 3 ans d'écart avec le reste des élèves. Et j'avais été suivi donc par un psy à ce moment-là, bah, pour faire les trucs, les tests de QI, machin. Ça, c'était donc dans un contexte purement scolaire. Et après, j'avais été reçu par ce même psy pour mes problèmes familiaux. Et quand ça n'allait pas entre mon père et ma mère, bah, on est retourné voir ce psy. Et mes parents se barraient. Et moi, je restais avec ce psy pendant 3, 4, 5 heures l'après-midi. Et...
Ah ouais.
En fait, comme il me connaissait sur le bout des doigts, parce que... c'est avec lui que j'ai eu énormément de rendez-vous quand justement il a fallu canaliser mon hyperactivité, il a fallu m'expliquer c'est quoi être entre guillemets, tu vois, un enfant précoce. Et c'était lui avec qui je parlais de tout ça. Et donc en fait c'était la solution la plus logique d'aller voir cette personne qui me connaît bien et qui connaît ma situation familiale en plus, pour aller lui parler de ça. Et ouais, non, c'est le... Donc je l'ai vu enfin dans deux situations très différentes.
Ok, et t'as arrêté à l'adolescence quand c'était plus compliqué.
J'adorerais le revoir, ce gars. J'adorerais vraiment.
Ah non, alors...
Pardon.
Je parlais plutôt à l'adolescence en fait, quand tu disais, tu vois, justement que c'était plus compliqué pour toi.
Ouais.
Ah non, c'était à ce moment-là que tu l'as revu, pardon.
Non, la dernière fois que je l'avais revu, c'était. Je pense que ça devait être aux alentours de 10 ans, un peu avant 10 ans. Donc un peu avant l'adolescence,
ouais. Et ouais, et plus tard, tu l'as plus revu.
Plus tard, j'ai pas revu de psy.
Ok.
Je pense que c'est un truc que, voilà, comme j'avais dit que je referais, mais. Et lui, j'adorerais le retrouver. J'adorerais. Mais après, voilà, malheureusement, il n'exerce plus.
Donc, ah, tu l'as retrouvé?
Bah, il n'exerce plus, ouais. je pourrais jamais avoir un. Si je veux aller revoir un psy, c'est jamais lui que je pourrais aller revoir.
Ouais.
Alors que ce serait, je pense, fascinant.
Ouais, c'est sûr.
Ce serait super intéressant parce que, voilà, toutes les dynamiques que moi, j'arrivais pas à comprendre, bah, lui, il les comprenait la plupart du temps pour moi, il me les expliquait. Les dynamiques à la fois qui se passaient dans ma tête et qui se passaient dans ma famille et du coup dans ma tête par rapport à ma famille. Enfin, tout ça, il m'aidait à mettre des étiquettes sur les trucs que j'arrivais pas à expliquer. Il m'aidait à tirer des traits entre des points qui étaient entre beaucoup beaucoup de points qui n'avaient pas de traits, en fait. C'était un nuage de points. Et lui, il m'aidait. Et non, ça, c'était cool. Je pense que ça a aussi participé à ma, ouais, à ma construction psychologique, je pense.
Ok. Est-ce qu'on parle des jeux vidéo un petit peu ?
Eh ben, écoute.
Parce que... En fait, j'ai un peu la sensation aussi que, dis-moi si je me trompe, hein, mais les jeux vidéo t'ont aidé aussi, toi, à traverser ces moments difficiles.
Ah, carrément, c'était un échappatoire.
Le grand cliché, tu sais.
Ouais, c'est vraiment le grand cliché, mais ça a été ça, je pense. Enfin, ça me servait à m'évader. Et quand je rentrais de l'école et quand j'en pouvais plus de voir ma mère et mon père s'engueuler, quand j'en pouvais plus de voir la violence, etc., je m'enfermais dans le bureau ou dans ma piole quand j'avais un PC, parce que j'ai mis un PC très tard dans ma chambre. Donc souvent j'étais dans le bureau et donc j'assistais quand même aux disputes, enfin, c'était un peu chiant. Mais du coup je m'évadais et ça m'a beaucoup aidé, ouais, à ne plus penser, en fait, à ne plus penser à ça et même à ne plus penser à rien, juste à jouer ou même parfois à voir des potes, parce que les potes du lycée, du coup, du collège, on jouait avec ensemble. Donc ouais, non, ça m'a aidé.
T'as commencé plus tôt que ça, non ?
À jouer aux jeux vidéo ?
Ouais.
Je crois que j'avais commencé... ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment pas bien. Vraiment, j'avais commencé à genre 7 ans. 6-7 ans, mais sur CS. Pas sur Mario ou quoi, sur Counter-Strike.
Sur Counter-Strike.
qui est un jeu de tir qui oppose deux équipes et donc qui est quand même un jeu assez violent à mettre dans les mains d'un enfant de 7 ans. Mais bon, après, ça va. J'en ai pas de séquelles et...
Bah, il suffirait, on sait pas, parce qu'on t'a jamais mis une gun entre les mains, peut-être que tu...
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais non, ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a beaucoup aidé à me construire, même moi, en fait, bah, quand... sans forcément parler des problèmes de famille, je me souviens que donc ce psy, au début, donc, quand il m'avait diagnostiqué hyperactif précoce, il m'avait dit... Bah, il vous faut un truc pour canaliser l'énergie de Valentin, parce que sinon ça va être tout le temps l'enfer et tout, il va être tout le temps actif, ça va être chiant. Donc vous pouvez, enfin, il peut se mettre au sport. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de sport de combat, ça m'aidait à extérioriser plein de trucs. Et il m'a dit aussi, le jeu vidéo, ça peut être pas mal, essaie de jouer à Tetris.
Raté.
Et mes parents m'avaient acheté une
Game Boy.
Une Game Boy avec Tetris, ouais.
Et tu as éclaté tous les niveaux ou...
Ah, j'avais éclaté Tetris, ouais. Tetris Game Boy, j'y jouais tout le temps. Vraiment, j'y jouais.
T'avais fait 999 ou pas ?
Non, quand même pas. j'ai perdu en réflexe sur Tetris. Vraiment, je l'ai relancé récemment là. Je jouais mieux étant gosse.
Bah, c'est qu'une question de.
Oui, non, c'est une question d'entraînement et d'habitude. Ouais. Mais bon.
Et comment tu t'es mis à Counter-Strike ? Quand t'avais 6-7 ans ?
Enfin, après, bon, je jouais occasionnellement sur le PC de mon père avant, qui avait des trucs, mais genre Flight Simulator 98, ouais. Où voilà, je bougeais le clavier et la souris. On jouait à Midtown Madness 2, qui était un jeu de voiture aussi. Mais sinon, ouais, non, le vrai jeu auquel je jouais régulièrement, c'était... j'allais à la garderie, en fait, tous les mercredis, parce que ma mère et mon père bossaient, et donc ils ne pouvaient pas nous garder le mercredi quand nous, on n'avait pas cours. Et donc on allait à la garderie du petit village dans lequel on habitait, et il y avait un cybercafé juste à côté. Et à partir de 14h, c'était open bar. Genre, dès qu'on avait mangé à la cantine, on pouvait aller au cybercafé et jouer aux jeux qui étaient sur le PC. Personne, aucun adulte responsable n'a vérifié à un seul moment les jeux qu'il y avait sur ces PC. Ce qui fait que nous, on jouait à Counter-Strike, qui est donc un jeu de tir, on jouait à Half-Life, qui était un autre jeu de tir, on jouait à des jeux de voiture aussi, hein. On joue à plein de trucs, et c'est là que j'ai découvert énormément, énormément de jeux qui aujourd'hui me passionnent, et des jeux que j'aime toujours, et que voilà. Mais c'est comme ça que j'avais commencé, ouais, les jeux régulièrement et les jeux en ligne.
Et les jeux en ligne, déjà.
Bah, en fait, on joue en réseau. Donc, ouais. Après, c'est ce qui m'a naturellement dirigé. J'ai la chance de, comme je suis jeune, tu vois, moi, enfin, c'était déjà développé. C'était déjà...
J'ai bien senti que ton « comme je suis zen », il était un peu... Tu vois, toi, quand t'avais 6-7 ans, t'étais juste en train de jouer à, moi, Game & Watch, hein, tu vois, sur mes vieux jeux Nintendo.
Mon daron avait une Mega Drive qui m'a refilé, d'ailleurs. Pareil, hein, lui, il a pas vérifié ce qu'il me donnait. Il m'a donné Splatterhouse, qui était un...
Ah, oui.
Ça, pareil.
Un jeu d'horreur, là.
Tu tues des démons et tout, les démons, ils saignent. Enfin, ça explose dans tous les sens. Heureusement que justement, je suis pas devenu... Je suis pas devenu violent ou quoi à cause de ces jeux-là. Bon, après, ça, c'est toujours un peu des conneries, mais effectivement, ouais.
Il n'y avait pas Peggy, je pense, à l'époque, tu vois.
Je sais pas, mais ouais, enfin, c'est. Ouais, non. Il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'avais commencé ouais, à jouer en réseau avec des potes. Et après, donc, j'ai découvert qu'on pouvait jouer en réseau, mais depuis chez moi, en rentrant des cours. Et donc, ça m'a aidé à beaucoup sociabiliser, en fait, parce que je ne sociabilisais pas trop au collège et au lycée. C'est un truc qui me.
Mais on peut peut-être en parler un peu, mais tu avais 2 ans d'écart avec.
Ouais.
Avec... Donc t'étais un bébé quoi.
Ah j'étais mais vraiment bébé. J'ai toujours été historiquement toujours été le plus jeune dans les classes et les promos où j'ai été.
Tu m'étonnes.
Vraiment il y a et parfois en plus bah, quand t'avais des élèves qui étaient plus âgés, parfois il y avait des différences de 4-5 ans et moi ouais, au lycée t'avais des gens qui avaient de la barbe, des gens genre ils avaient mué et tout et moi j'étais là ou même.
Toi t'avais 12 ans.
ou même qui avait une copine et moi je suis rentré au lycée j'avais 13 piges.
Ah ouais, putain.
Je savais pas ce que c'était ça. Et tout le monde était là, avait une copine, machin, sortait, allait fumer des clopes devant et tout. Et...
Surtout qu'à cet âge-là, c'est. Enfin, entre 13 et 15 ans, il y a un monde quoi.
Ah, non, c'est un âge où tout évolue très vite. Non, il y a vraiment un monde. Mais après, j'ai jamais eu de problème, jamais été mis à l'écart. J'étais renfermé, mais pas parce qu'on me mettait à l'écart, mais c'est juste parce que moi, j'étais renfermé et très introverti. Mais sinon, dès qu'il fallait sociabiliser, que ce soit voilà, en cours ou pour faire du sport ou machin, etc., jamais eu de problème. Les gens m'ont jamais vanné pour mon âge ou m'ont jamais...
T'es un peu la mascotte ou...
Non, enfin pas...
C'est au sens positif, quoi.
Ouais,
tu
non,
vois,
mais ouais, carrément. Ouais, c'était... Je sais pas, ils me donnaient des surnoms affectifs genre crevette, tu vois.
C'est sympa, mais bon.
C'est sympa, mais bon, voilà, c'était ça. C'était sympa, mais bon. Non, ça restait quand même toujours un sujet... genre toujours, vraiment, dès que je rencontrais un nouvel élève ou quoi, il y avait, le sujet venait toujours sur le tapis. Et à un moment donné, c'est chiant de tout le temps, la personne te pose la question « Mais attends, mais t'as sauté de classe ?»« Mais attends, mais machin ?» Et ouais, c'était toujours un sujet qui revenait. Mais après, comme... au final, j'avais pas trop de mal à... comment dire ? Dès qu'il fallait sociabiliser, j'avais pas de mal. Bah, au final, après, les gens, bah, ils me connaissaient juste pour le mec jeune qui a 2-3 ans de moins et qui parle pas trop à grand monde.
Et t'avais pas, en grandissant, ce souci un peu de décalage, notamment au moment de la puberté, etc., où t'as tous tes potes qui commencent à avoir des poils, la voix qui mue, ah ouais, etc., ouais. Et toi, t'es là... Ouais. Bonjour, moi j'ai encore 13
ans. Ah
ben
moi quand je me souviens que c'était
parce que lycée tu rentres au lycée
à l'époque c'était au collège donc attends quand il commençait à avoir la puberté tous les mecs commençaient à parler de tu sais de masturbation, d'éjaculation, de plein de trucs et tout et moi j'étais là genre mais quoi? Qu'est-ce que mais moi je suis pas du tout dans ces bails là
moi je joue au Lego.
Moi je joue aux jeux vidéo et voilà et non mais ouais t'as au début, en fait, quand t'as cet âge-là, ça nourrit forcément. Enfin, ça nourrit chez moi des complexes. Je pense d'entendre tout le monde parler de trucs que moi j'aurais. Enfin, tu vois, plus tard, hein, que je connais pas, machin. Là, t'avais une impression d'être mis à l'écart. Et je pense que par contre, là-dessus, il me semble bien qu'il y a eu des épisodes, genre dans les vestiaires ou quoi, où parfois ça vannait là-dessus. Ouais.
Ça vannait quoi?
Ah bah t'avais genre littéralement tout le monde avait des poils sous les reins,
ah oui,
tu vois,
bah
tout le
oui.
monde avait des poils de torse, tout le monde avait de la barbe, enfin ouais. Peut-être pas de la barbe mais genre enfin les gens avaient
des poils quoi.
Ils avaient 14-15 ans quand moi j'en avais 12-13
Mais c'est un truc aujourd'hui je pense qu'ils font un peu plus gaffe les profs avant de faire sauter des classes, tu sais c'est aussi ouais. L'aspect émotionnel, est-ce que ça suit
ah bah,
quoi tu vois.
Carrément. Je crois que c'était ma mère qui m'avait dit que la question s'était posée de m'en faire sauter une troisième ou non. Et ils ont refusé. Parce que ça aurait fait beaucoup trop, en fait. Ouais. Et t'as trop d'écart qui se. Déjà que là, ils avaient hésité. Et ils se demandaient, en fait. Ils se demandaient, mes parents, si. En fait, dans ces schémas-là, quand t'as un enfant hyperactif, précoce, voilà. Généralement, le psy va conseiller plusieurs choses. Il peut te conseiller de le mettre dans un établissement spécialisé. Pour qu'il soit justement avec des gosses comme lui et que ça se passe bien. Mais mes parents n'ont pas voulu le faire parce qu'ils jugeaient que genre, ça me mettait à l'écart des autres enfants et j'aurais pas pu vivre ce que d'autres enfants ont vécu. Donc ça, avec du recul, en vrai, j'en suis plutôt content et j'ai pas trop eu de problème. Et je crois que le psy m'avait conseillé aussi des médicaments, mais que j'avais jamais pris les trucs à l'époque, la Ritaline et tout, mais ça, jamais.
Et tu vivais comment, toi, le... enfin, tes complexes, tu les vivais comment, justement, en étant en décalage comme ça, d'un... surtout les attributs masculins que, normalement, un homme doit avoir, tu vois?
Ah bah, c'est beaucoup d'interrogations. Hein. Mmh. C'est beaucoup d'interrogations. Après, voilà, j'avais, encore une fois, la chance de... d'avoir grandi à peu près en même temps qu'Internet. Même Internet était déjà plus grand que moi. Beaucoup plus grand que moi. Donc, quand tu te posais une question, bah... soit t'en parles à l'une des rares personnes dans, à l'époque dans ma classe ou avec qui je m'entendais bien, mais au final non, même pas. Enfin, j'ai peut-être souvenir d'un mec avec qui on avait pu parler de ça, mais sinon il y avait toujours des tabous et toujours des... enfin, on parlait pas trop de nos tubs et on parlait pas trop de ça. Mais dès que j'avais des interrogations, du coup, bah, j'allais voir sur internet.
T'allais voir où sur internet?
Je sais pas, je tapais des trucs, je sais plus du tout, mais... franchement, je... bah, tu sais, en fait, je crois que je tapais les questions connes de genre... enfin, est-ce que c'est normal que machin, ou est-ce que c'est normal que ceci? Et vraiment, les trucs que personne ne tape jamais.
Et, non, je pense qu'il y a plein de gens qui le tapent.
Et du coup, bah, j'arrivais sur des forums où parfois, même typiquement, bah, je crois qu'il y avait même des topics sur le forum de JVC. Parfois, tu tombes sur des mecs qui se posent des questions qui peuvent te sembler débiles. Mais bah en fait, qui parfois peuvent résonner en toi.
Jeuxvideo.com, donc JVC.
Oui, pardon, ouais, jeuxvideo.com. Ouais. Donc il y a un forum aussi qui ne traite pas que de jeux vidéo, mais de genre plein de trucs. J'ai toujours eu ce décalage. En fait, voilà, ouais, psychologiquement, il n'y avait pas forcément de problème et les gens le recevaient plutôt bien. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est... physiquement, tout le monde a toujours été en avance. Soit au niveau de la taille, soit au niveau de plein de trucs, même au niveau du sport en fait. Par exemple, quand tu dois faire. Quand tu arrives au lycée.
Et que
tu
parce
dois...
que t'as les barèmes.
T'as les mêmes barèmes que tout. Enfin, quand tu dois faire du foot dans une équipe de gars qui ont 3 ans de plus que toi, qui font généralement soit du sport ou de la muscu ou je sais pas quoi, et moi je suis une brindille de 3 ans de moins, juste qui met son sweat et ses baskets là, je me faisais éclater. Je me faisais vraiment éclater au sport. Mais et par contre, toutes ces questions là je pouvais jamais en parler avec mon père, tu vois. Par exemple, bah, c'est con parce que ça aurait été un interlocuteur privilégié. Si j'ai une question à poser sur mon corps, sur mon évolution psychologique et ma puberté par exemple, bah, j'aurais adoré pouvoir lui en parler, mais jamais. C'est...
t'as souvenir d'avoir tenté ou c'était...
ouais, j'avais tenté une fois et Il me semble qu'il avait rigolé. En fait, bah, alors, j'avais tenté une fois, et il y avait aussi ce truc où on avait peur, à la fois moi et ma sœur, juste ne serait-ce que lui dire qu'on avait un copain ou une copine. Donc fatalement, en fait, on n'avait pas trop envie de lui parler de ces trucs-là, et la seule fois où j'avais essayé, je crois qu'il s'était, plus ou moins moqué, et après, il était passé à autre chose. Mais non, on a jamais trop eu ces discussions-là.
À quel moment t'as eu l'impression que ça s'équilibre un peu plus et que tu... enfin, ça va aujourd'hui, t'as plus de complexe?
Non, heureusement.
Non, mais ça pourrait, je sais pas.
Ah, ça pourrait. Mais non, je pense que... bah, en fait, tout s'est équilibré à partir du moment où... c'est bête à dire, mais quand tu sors du lycée, collège et lycée, c'est quand même des cadres qui sont très encadrés et les enfants ont généralement tous le même âge. Et dès que t'arrives en études supérieures, bah, t'as des gens de plein d'âges différents, donc ça, c'est cool. Et il n'y avait plus trop cette séparation-là, et tout était un peu plus flou, donc j'étais pas forcément j'étais le plus jeune, mais j'étais pas forcément le gars qui a sauté de classe, j'étais juste un mec jeune, en fait. Et ça, c'était bien, et ça me permet aussi de plus parler avec des gens, et de plus m'ouvrir que j'avais pu le faire au lycée. Et c'est peut-être à ce moment-là que ça s'est un petit peu équilibré, que ça s'est un peu estompé, ouais.
Ok. Revenons aux jeux vidéo. Donc tu disais, ouais, que tu jouais, t'avais 6-7 ans, enfin, le Counter-Strike, etc., etc. Si je me trompe pas, t'avais quand même un sacré putain de niveau, non?
C'est comme Tetris, hein. Ça, avec l'entraînement... Non, je suis content de... ouais, je jouais pas mal, donc du coup, je suis content de mon niveau, ouais. Et... Ouais, en vrai, ouais.
Ok. Non, mais en fait, je cherchais à savoir un petit peu, parce qu'aujourd'hui, tu travailles dans le milieu du jeu vidéo. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à venir te dire, ok, en fait, ça pourrait être un métier pour moi, ça pourrait être cool?
C'était, je crois que c'était au début du lycée, bah, quand j'avais commencé à me... Non, peut-être en première. En première, quand mon cerveau s'est mis en mode « Ok, là maintenant, faut peut-être que tu réfléchisses à quoi faire après, parce que ça va arriver. »
Et tu avais 14 ans.
Et j'avais... je crois que j'avais... Ouais, j'avais 14 ans. Et ben, je commençais à me... Ben, en fait, c'est typiquement les moments où on commençait à avoir des rendez-vous avec les conseillères d'orientation. Mmh. Les profs commençaient à être de plus en plus insistants sur ben, « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» machin, etc. Et moi, ben, juste, je savais pas. Il y avait, en plus, voilà, je sais pas si c'est encore vraiment le cas aujourd'hui, mais il y avait cette sainte trinité du lycée général où, tout le monde voulait partir en S et limite les autres filières étaient méprisées, enfin vraiment. Et moi, mes parents voulaient me faire aller en S. Et moi, les maths, j'en avais vraiment rien à battre et j'étais tout à fait nul en plus, ça m'intéressait pas. Donc en fait, assez naïvement, je me suis dit, bah, j'aime bien le jeu vidéo. Donc j'aimerais bien faire du jeu vidéo et je voulais à la base non pas là donc actuellement je suis journaliste jeu vidéo donc j'écris dessus mais je voulais pas à l'époque être journaliste, je voulais juste créer des jeux vidéo et donc je m'étais renseigné sur les filières possibles et après on avait trouvé une école et donc après le lycée j'ai fait 2 ans dans une école de game design pour apprendre à faire des jeux de plateau et des jeux vidéo et donc c'est comme ça après que je me suis rendu compte que ok il y a des filières, ok c'est possible d'en faire un métier. Après j'ai bifurqué.
Pourquoi t'as bifurqué ?
Parce que je suis parti de l'école pour justement les problèmes. Alors pour plein de raisons, les problèmes familiaux qui arrivaient à peu près dans ce moment-là, et c'était la deuxième année de mon cursus dans cette école-là. En fait, c'était le moment où mes parents sont séparés, et où ils ont vraiment, enfin, ma mère a changé vraiment de maison. Donc je devais retourner vivre, enfin, je devais vivre qu'avec mon père, et c'était compliqué. Et après, il a fallu revivre avec ma mère et on n'avait pas forcément les sous pour financer une école qui, quand même, coûtait, je crois, 10 000 balles l'année. Donc, j'avais fait un prêt. Donc, là, attends, là, du coup, j'avais, j'avais 17 ou 18 ans et j'avais fait un prêt étudiant pour financer ma deuxième année. Et après, j'ai arrêté parce que, par contre, ça m'intéressait moins ce qui se passait à l'école, les intervenants étaient peut-être pas forcément tous cool et j'avais parfois l'impression de perdre mon temps et comme j'écrivais à côté sur mon temps libre, je gérais un site qui parlait de jeux vidéo et ben je me suis dit je vais arrêter, je vais prendre un petit appart à Lille et essayer de faire du taf alimentaire. J'ai bossé en restauration à Starbucks et à Bagelstein, c'était pas des folles expériences non plus. Mais ça m'a permis, au moins ça a eu le mérite de me laisser du temps libre à côté, du temps matériel et aussi du temps mental pour penser à ce que je voulais écrire et écrire à côté. Et par un concours de circonstances que j'arrive toujours pas à expliquer, j'ai réussi à en faire un métier.
Alors, moi qui connais un peu l'histoire, je crois être capable d'expliquer que...
Non mais d'accord,
c'est,
mais...
C'est pas qu'un concours de circonstances.
Bah t'as toujours ce truc de... C'est quand même un... Enfin, il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent faire ça. Il y a quand même beaucoup de...
Tu me disais que tu étais en train de t'occuper d'un site de jeux vidéo.
Oui.
C'était quoi ?
À l'époque, donc quand j'étais dans cette école-là, c'était Naufrag. C'était un site qui parle justement des jeux de tir. Parce que comme j'avais nourri cette passion assez vite, parler de jeux de tir, c'était jeux de tir et jeux d'action, c'était cool.
Bon, moi, je pense que quand tu arrives et que tu te dis je vais utiliser mon temps libre à m'occuper d'un site, tu crées de l'expérience, non ?
Ouais, mais tout comme il y a des gens qui sur leur temps libre vont faire du piano ou vont faire d'autres trucs et c'est pas pour autant qu'ils vont finir pianiste.
Ouais.
Et donc c'est aussi beaucoup beaucoup de chance. Et
ok. Après, bon, j'y crois pas trop à la chance, mais après, il y a un peu de chance si tu veux, mais je pense que c'est pas beaucoup de chance.
C'est beaucoup
un peu de chance.
Pour moi, c'est un.
C'est beaucoup de travail.
C'est un subtil mélange des deux. C'est beaucoup de travail. T'as parfois souvent l'impression de faire du travail pour rien. Et c'est un truc qui nourrissait beaucoup de peur chez ma mère, particulièrement, et chez mon père. Alors mon père, c'était pas vraiment des peurs. Mon père, quand il a vu que, par exemple, j'étais parti de l'école et que, en fait, historiquement, j'ai jamais rien trop foutu au collège et au lycée parce que je savais que je pouvais arriver les mains dans les poches en tongs et me contenter du strict minimum et juste ne rien faire et voilà. Donc j'oubliais en fait les cours et je faisais d'autres trucs à côté, donc jouer aux jeux vidéo et écrire. Et mon père, tout de suite, c'était mais regarde ce que t'as fait de Valentin, c'est un raté, il avait un avenir et tout, et maintenant, c'est vraiment, il bosse en restauration, machin, Enfin, il était vraiment pas trop d'encouragement, même si
c'est vrai que si tu regardes de l'extérieur, tu vois, tu peux te dire bah c'est bizarre, tu vois.
Et même ma mère, en fait, avait ces peurs-là. Elle avait d'autres façons de les témoigner,
oui, c'est ça.
De façon plus cordiale. Mais je sais qu'elle était terriblement effrayée, justement à l'idée que j'arrive pas à faire ce que je veux de ma vie. Et quand elle voyait, tu vois, du coup, son fils qui rentrait tous les soirs et qui juste jouait aux jeux vidéo. Pour elle, c'était juste, il joue aux jeux vidéo.
C'était du loisir, quoi.
Voilà. Et donc, du coup, elle savait pas trop où j'allais, elle savait pas trop ce que je faisais. Même moi, en vérité, je savais pas trop ce que je faisais. J'étais convaincu que ça allait marcher, mais au final, ça aurait très bien pu ne pas marcher. Et du coup, j'écrivais, par exemple, quand je bossais l'après-midi en restauration, j'écrivais le matin, j'écrivais le soir, jusqu'au bout de la nuit.
T'écrivais des news pour ce site, c'est ça ?
Ouais, des news, des tests, on faisait des reportages, des interviews, des...
Tout ça bénévole.
C'était bénévole. Ouais. En fait, on se finançait l'argent qu'on arrivait à générer avec le site, principalement via la publicité et un peu l'affiliation. Et on le réinvestissait dans faire des salons de jeux vidéo et payer les serveurs, payer les trucs comme ça. On se prenait vraiment, je crois, très très peu d'argent. Je crois que, on a dû se prendre deux ou trois fois des thunes, mais sinon... Personne ne pouvait en vivre, quoi.
Qu'est-ce que ça fait de grandir en tant que petit mec dans une communauté de... Alors, je crois connaître que la communauté des gamers FPS, c'est pas forcément la communauté de gamers la plus tendre, hein, si
non,
tu veux.
Mais même pas forcément la moins toxique. Enfin, c'est pas forcément la plus accueillante, tu vois. Donc, les anciens gérants du site, donc Ned Sabes et Dr. Loser, étaient partis en 2014-2015, je crois. Et du coup, nous, on avait repris les rênes du site. Mais c'est non, effectivement, c'est pas une communauté. Même la communauté du jeu vidéo en général, moi, chaque jour, quand je ne serait-ce qu'en scrollant sur Twitter ou en voyant les commentaires des gens sous des vidéos YouTube ou juste des polémiques à la con, dès qu'on tente de faire évoluer les choses un petit peu dans le jeu vidéo et que je vois une immense majorité c'est pas une majorité, mais justement une minorité très bruyante de gens qui font chier et sont constamment dans la régression. En fait, j'ai honte. La communauté G, parfois, me fait vraiment honte. Et t'as l'impression de... Et heureusement, tu bosses pour des gens très cool, et tu sais que tu fais plaisir à des gens cool, et que tu sers à des gens qui te remercient, et ça, c'est très bien. Mais t'as quand même parfois l'impression d'être attaché à un média qui est, genre, assimilé à un public un peu con, parfois. Et...
C'est, en plus, les médias traditionnels en font un peu leur chou gras à chaque fois. C'est-à-dire que dès qu'il y a clairement une histoire, ils sont là, le jeu vidéo.
T'avais toujours
pour rajouter un coup de diabolisation, quoi.
À l'époque, quand les jeux vidéo commençaient à se développer, et que les jeux violents aussi commençaient à se développer, même encore aujourd'hui. Enfin,
ouais, la télé.
Voilà, ce truc que les jeux vidéo rend violent. Les enfants, si votre enfant joue à Doom ou à Call of Duty le soir, il va devenir violent, etc. Enfin. Ouais, non, ça c'est un truc qui était très très ancré dans le rapport entre les médias et les médias tradis et le jeu.
Ouais, c'est ça. Et puis quoi qu'il arrive, le jeu vidéo reste un concurrent temps de cerveau contre la télé, quoi. Donc forcément, il faut le flinguer tant que c'est possible, quoi. Enfin, je sais pas si c'est conscient comme ça dans les rédactions de télévision, etc. Mais j'avais toujours eu cette sensation qu'il y avait un peu une sorte de concurrent chelou, alors que.
Je sais pas. C'est peut-être. Très honnêtement, c'est peut-être la peur de voir leur public partir ailleurs. Du coup, c'est la peur de l'inconnu. Hein. Pour moi, t'as le même truc, t'as ce même rapport entre par exemple la télé et les youtubeurs. Dès qu'un youtubeur va arriver à la télé, t'as cette peur, on dirait, des médias tradis, et ça va directement parler d'argent et parler de... Enfin, parce qu'ils ont conscience, entre guillemets, que YouTube, entre gros guillemets, leur vole de l'audimat. Et du coup, c'est une peur d'être obsolète, et c'est une peur d'être mis de côté, et voilà. Et avec le jeu vidéo, c'était peut-être ça, en fait. C'est la peur de ne... Ce que tu ne connais pas, généralement, te fait peur, et c'était ça, à mon avis.
Aujourd'hui, t'as 23 ans, tu dis que la communauté la communauté de ton média préféré, le jeu vidéo, te fait un peu honte. Comment ça s'est passé pour toi, en tant que petit gars qui a commencé à jouer à Counter-Strike dès 6-7 ans, d'évoluer justement dans ce truc-là? Est-ce que tu as la sensation d'être passé par plusieurs étapes en tant que mec? Parce que le jeu vidéo te renvoie une image du mec qui est encore plus exacerbé, je trouve, que la culture, le cinéma, par exemple, quoi.
Après, c'est un truc qui tend à changer en ce moment, depuis quelques années. Heureusement, il y a de plus en plus de représentations de persos féminins, de persos non-genrés et tout. Donc ça, c'est grave cool. Et même au-delà de ça, en fait, c'est plus juste un média où tu vas avoir des jeux de caisse, des jeux de sport ou des jeux de tir. C'est un média où tu vas avoir des jeux qui parlent de cancer, qui parlent de dépression, qui parlent de joie, qui parlent de psychologie, de plein
de rapport père-fils dans le dernier God of War, par exemple.
Oui, bah, carrément. Et du coup, les jeux parlent de plein de choses. Donc ça, c'est bien.
Mais après... c'était pas le cas quand t'étais gamin, quoi.
Ah non, du tout. Et après, enfin, moi, comme j'ai... Comment dire ? Comme j'ai évolué, tu vois, et qu'Internet était déjà présent, que t'avais déjà tout ce truc des forums JVC et tout, j'ai un peu évolué là-dedans. Et ouais, non, y a quand même... C'est un milieu et une scène, encore plus dans les jeux de tir, qui est très 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 masculine. Je crois jamais croisé de meufs en ligne en jouant à un jeu de tir. Une fois peut-être, ou deux.
Quand t'étais môme.
Même encore aujourd'hui. Hein.
Même encore aujourd'hui.
Très peu. Enfin, là, par exemple, on a un serveur Discord avec des potes et il y a une meuf dessus, mais j'en croise vraiment très très peu. Elles doivent se compter sur les doigts d'une main.
Est-ce qu'elle se planque pas ? Tu sais, t'avais ce truc où...
Ah, mais carrément. Si, si, bah, en fait...
Elle se trouve des pseudos masculins, c'est...
Bah, c'est un truc, enfin... Généralement, dès que... Dans un jeu en ligne, dès qu'un avatar, dès que les gens autour de lui savent qu'il est incarné par une fille, donc soit parce qu'elle parle dans son micro, ou soit parce qu'elle a un pseudo féminin, etc., directement, elle va être considérée comme un joueur différent, une joueuse différente. Et ça peut être positif comme négatif. Hein. Ils peuvent soit l'insulter, genre retourner à la cuisine ou machin. Ça, on en croise, mais tous les jours, même encore aujourd'hui. Et c'est pour ce genre de comportement que parfois j'ai honte de ma passion. Ça peut être du positif aussi. Enfin, ce qui leur semble positif, ça va être viens, on va te donner des pièces d'or, viens, on va te donner tel truc d'équipement, etc. Mais ça reste du. C'est nul en fait, parce que du coup, tu facilites sa progression, tu la traites différemment et tu lui fais comprendre que bah, pour toi, elle a un handicap. Elle n'est pas capable de. Profiter du jeu et devenir bonne au jeu parce que c'est une meuf et donc du coup tu vas l'aider, enfin non. Et donc non, c'est un milieu très masculin et j'ai généralement, quand moi il y avait un truc, un comportement qui me plaisait pas ou que, comment dire, ou que quelqu'un m'intéressait pas, généralement je m'en éloignais, moi je restais juste avec mes potes en ligne. Après voilà, j'ai eu une petite période aussi un peu con-con sur internet où. Jamais dans l'insulte, jamais dans typiquement ce genre de truc, mais une période où, par exemple, tu vas gagner à CS et tu vas t'amuser un peu à vanner les gens dans...
Bien sûr.
Évidemment, mais rien de toxique, tu vois. Et...
Ça, c'est pas con-con. Enfin, je pense que tu pourrais le faire dans un sport, dans n'importe quel sport, quoi.
Oui, non. C'est
plus simple de le faire par l'écran interposé que quand t'es en face.
Ouais. L'anonymat joue beaucoup, mais l'anonymat, le jeu vidéo, c'est un truc moi aujourd'hui qui fait partie intégrante de ma vie et qui m'a permis de rencontrer des gens que jamais j'aurais rencontré dans la vie physique et des gens qui en plus, enfin, la plus belle chose, c'est quand t'arrives à passer au-delà du rapport écran à écran et que t'arrives à voir les gens en vrai. Y a des gens avec qui j'avais passé 5, 6, 7 ans en ligne et que j'ai rencontré pour la première fois en vrai après. Et c'est fabuleux, on se revoit tous les ans ou tous les deux ans, enfin c'est super cool. Et c'est généralement de ces gens-là que je m'entoure. Et non, enfin tu vois, dès que tu vois des trucs qui te semblent toxiques ou qui te semblent déplacés, et t'en vois tous les jours, tout le temps, constamment, bah soit moi je m'en éloigne ou... Ouais, en fait je considère que ça sert vraiment à rien d'essayer d'interagir avec ces gens-là. Même pour les raisonner, en vrai ils s'en foutent. Donc juste je m'en éloigne et voilà.
Et dans ta représentation de toi, tu vois, quand tu joues par exemple au premier God of War, t'as quel âge quand le premier God of War sort ?
Putain, on est sur PS1 ou PS2, je sais plus.
Je sais plus, mais PS2, non ?
PS2, il me semble, ouais.
Genre, t'as 15 ans, 16 ans, non ?
Non, quand même pas.
Ah ouais ?
Non, je suis plus jeune encore.
Ah ouais, t'es plus jeune, ouais, oui.
Je suis plus jeune, oui.
Oui, c'est ça.
Je suis plus jeune.
T'es gamin, t'as joué à God of War ?
J'avais joué au 1 ou au 2 sur PS2, parce que j'ai jamais trop eu de console à la maison.
Ah oui.
J'ai surtout eu des consoles portables, ouais. Comme la Game Boy, la PSP, etc.
Donc tu jouais pas vraiment ce genre de jeu, mais tu vois, quand t'as des représentations masculines,
ouais.
qui sont over the top, quoi. Pour toi, c'est juste un avatar ?
Ah, pour moi, c'est vraiment juste un avatar. Après, ça en dit malheureusement beaucoup, et c'est con parce que, enfin, pour moi, c'est juste un avatar, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas qu'un avatar et qui sont beaucoup plus enclins à s'attacher à un perso et à justement à se voir dans un perso et à avoir parfois le reflet d'eux. Et ça peut être dangereux de véhiculer des images très contrastées et très opaques, à la fois des masculinités et de la féminité. Mais ouais, pour moi, non, c'est vraiment juste un avatar. C'est...
Okay.
Et je suis content de voir que les trucs changent et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux qui te laissent choisir ton perso, qu'il soit genré ou non, et qu'on parle de plein de trucs. On parle d'homosexualité, on parle de mort, on parle de deuil, on parle de... Et ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment un truc qui me passionne et qui c'est ce qui avait nourri à la base ma passion pour les jeux indés. C'est comme ça que j'avais commencé à écrire sur internet. À l'époque, j'avais en fait une grosse partie de ma socialisation au collège et au lycée, c'était via Minecraft qui avait explosé en 2009-2010, époque où moi j'étais au lycée, début lycée, et j'ai dû passer 2000 ou 3000 heures, genre des vraies heures de la vraie vie sur Minecraft, à jouer avec mes potes et à construire des trucs, et à terme en fait aussi à gérer un serveur, donc à gérer des communautés qui arrivent, à parler à des gens, gérer des groupes de personnes, et ça a beaucoup 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 joué, ouais.
Et t'arrivais quand même à y trouver ton compte dans ce truc de gestion de communauté, même si t'avais des aspects, enfin si t'avais des membres toxiques, quoi, t'étais dans un rapport assez apaisé par rapport à ça.
Bah, il faut t'entourer des bonnes personnes, en fait, c'est tout. Okay. Dès que, enfin, par exemple, quand tu vas développer un groupe d'amis en ligne ou n'importe, enfin, dès que quelqu'un est toxique, bah, juste tu t'entoures pas de lui. Et t'as toujours des relous, t'as toujours des gens chiants et des gens qui vont parfois te casser ton ambiance ou la dynamique de ton groupe. Mais voilà, ces gens-là, après, c'est devenu tellement simple aujourd'hui juste de virer des gens. Après, enfin, je parle. Encore une fois, juste par exemple des serveurs Minecraft. Juste si on voulait pas jouer avec quelqu'un, ben on le bannit du serveur et voilà, quoi. Après, bon, ils trouvent généralement toujours un moyen de nous emmerder. C'est le principe malheureusement du harcèlement en ligne. Mais ouais, on les virait et voilà. Ça se passait bien.
Ok. T'as pas la sensation en grandissant d'avoir fait des trucs où tu te dis ok, si c'est ça être un mec, alors ok, je vais le faire. Tout en te disant, ok, c'est fucked up.
Ah, genre se forcer à être un mec pour. Tu vois, juste pour le principe d'être un mec, quoi. Je pense que, ouais. Par exemple, me mettre à la muscu. Parce que.
T'es un go muscu, toi.
Bah, je crois que ouais, c'était au lycée. Au lycée, j'ai fait de la muscu pendant un an et demi. Alors, c'était pas du tout régulier. Hein. C'était. C'était généralement une fois par semaine. Le dimanche, on restait 3-4 heures. Avec un pote, mais c'était justement ça s'inscrivait dans ce décalage physique entre moi et les autres enfants. Et quand je voyais l'un de mes très bons potes de l'époque qui faisait souvent de la muscu et tout le monde avait l'air tout le monde était genre en quête des muscles parce que c'était ça genre attirer les meufs et c'était ça être un mec et c'était ça dès qu'il fallait se mettre genre torse nu ou quoi, bah ok, super. Et et en fait, ouais, là c'est peut-être l'un de ces moments où je me suis dit bah vas-y, tout le monde le fait, peut-être ça peut être cool d'avoir des muscles, etc. Après j'ai continué un peu parce que en vérité ça me plaisait juste d'un point de vue bien fait physique. C'est cool, ça fait faire du cardio, ça te permet aussi toi de te dépasser, ça fait travailler la respiration. Et comme j'avais quelques petits soucis de santé à ce niveau-là, bah, ça m'aidait. Mais à la base, c'est parti de... vas-y, bah, je suis un mec, il faut que j'ai des muscles. Parce qu'en plus, j'étais quand même constamment une brindille dans ma vie, constamment une crevette. Et donc, ouais, y a même des fois où je me trouvais maigre. Et même encore aujourd'hui, hein, mais y a des fois où je me trouvais non pas juste, tu vois, brindille, mais même parfois maigre. Et je pense que ça, ouais, ça partait de là. Tout le monde le faisait, tous les mecs le faisaient. Genre, ça avait l'air cool. Après, il y avait aussi avoir une copine. Et je... Oh putain, ouais. pareil au lycée. Hein, la terre de tous les possibles et de toutes les révélations, apparemment. Tout le monde avait une copine et je crois que l'une de mes premières vraies copines avec qui ça a duré je crois 2 jours.
Putain, mais en plus t'avais 2 ans de décalage avec les meufs qui sont...
Non, ça par contre c'était chaud. Ça ouais. Par contre c'était vraiment chaud. Et ben en fait, comment dire, je voyais tout le monde. En fait moi j'avais peur de ça. J'avais vraiment vraiment peur d'avoir une copine et je savais pas comment ça marche. Je savais pas comment ça fonctionne une relation, même pas forcément de couple, mais juste comment enfin les trucs cons de comment on fait un bisou, tu vois, comment on se tient la main. J'avais peur de tenir la main, j'avais peur de montrer en public et machin, et juste comment ça fonctionne. Et ça je savais pas du tout et personne m'en parlait. Et donc ma première copine au lycée, j'avais terriblement peur de l'embrasser. Et je voyais tous les gamins, tu vois, le matin qui arrivaient, et donc avant que la cloche sonne, tout le monde se retrouvait soit dans la cour, soit dans les couloirs et tout, et du coup, genre, leur copine arrivait, ils se faisaient des bisous, ils se roulaient des pelles et tout. Et moi, je flippais de ouf, je flippais vraiment, j'avais peur de pas savoir le faire, et comme je l'avais jamais fait, je flippais vraiment en ma race. Et je me souviens d'un moment où, du coup, la fille avec qui j'étais à l'époque, elle arrive, et genre. Elle veut m'embrasser et moi j'ai un mouvement de recul et je fais vas-y viens on peut aller dans l'escalier là-bas. Et ça n'a rien de creepy, hein. C'est juste on est allé dans l'escalier et je lui ai fait un vieux smack qui a duré une demi-seconde parce que j'avais peur de le faire devant les autres mecs. Et j'avais peur qu'on me juge parce que bah, je l'avais jamais fait et je sais pas comment en faire et du coup j'avais peur de ça. Ouais. J'ai mis longtemps quand même à...
C'était hier. Ton premier bisou.
non, mais
tu t'es rattrapé depuis.
j'espère que à ce niveau-là, là, pour l'instant, ça va. Et
Non, mais pardon, je blaguais, mais en fait, t'as mis combien de temps?
Bah, en fait, il y avait beaucoup de personnes, par exemple, au collège, tu vois, qui avaient déjà des copines et qui avaient déjà des. Enfin. Au collège, j'avais déjà ces histoires de gamins qui s'emballaient dans les chiottes ou quoi. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Et alors, déjà, d'une part, parce que ça m'intéressait pas.
Puis t'avais 9 ans.
Alors, déjà, oui.
J'ai dit.
C'est vrai.
C'est ouf.
Non, mais enfin, ouais, du coup, je parle plutôt en fin de collège, tu vois, quand j'approchais des 12,
des
13,
11 ans.
14.
Non mais c'est vrai. Non mais ça joue énormément, ouais, en fait. Tu vois, ouais, tu disais 2-3 ans d'écart à cet âge-là, c'est énorme.
Mais du coup, ça crée un décalage en fait. Ça crée une inertie, un décalage naturel de moi comme je suis en décalage et ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je m'intéresserai au lycée. Et au lycée, les filles avaient déjà eu des expériences avec des garçons. Elles savaient déjà comment ça se passait et elles avaient déjà une certaine codification des relations. Et voilà, elles savaient comment faire. Moi, c'était vraiment genre. C'était Burning Man dans ma tête, je savais pas, c'était vraiment... Et donc ouais, non, ce décalage-là, par contre, il était un peu compliqué à gérer. J'ai jamais trop eu de... Je crois que j'avais eu une copine au lycée, et peut-être une deuxième, et c'est tout, quoi. Fin... Et ça n'a jamais duré très longtemps. Ça n'a jamais un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment intéressé. C'est après, une fois que justement, bah, une fois que tout s'est un peu équilibré et qu'il y avait plus d'écalage et que je pouvais penser plus sereinement, que justement, là, je me suis plus intéressé aux relations et j'hésitais pas à genre m'ouvrir sur mes émotions et à témoigner mon affection envers des gens. Et donc, du coup, c'est là que j'ai réussi à trouver des gens qui me convenaient, à avoir des vraies histoires amoureuses qui tiennent, quoi.
Comment t'as fait pour... T'as eu un déclic à un moment donné par rapport à cette histoire de justement partager tes émotions, t'ouvrir sur tes émotions en venant d'une famille où j'imagine c'était pas forcément...
Bah c'est... Alors, c'est venu je pense de deux choses. Il y a... Donc mon père avait ce côté où voilà, il parlait pas et très froid, très bloc de béton. Et ma mère c'était parfait inverse. Ma mère était super émotive et vraiment, elle s'ouvrait énormément et elle pleurait, elle n'hésitait pas à pleurer, soit de joie, soit de tristesse. Et j'ai hérité de son côté-là, et ça, je le ressens. Et je sais que j'ai sa sensibilité et c'est super cool. Et par contre, aussi, c'est aussi venu des meufs avec qui j'ai pu être. Parce que c'est en étant avec quelqu'un que parfois tu te rends compte que tu communiques pas assez. Et tu te rends compte que tu dois plus t'ouvrir et tu vois les bénéfices de t'ouvrir en fait et de juste de parler. Ça a été dur, hein, vraiment. Je crois que mes premières relations, vraiment, enfin ma première, je pense, où Ouais, ou mes deux premières, je pense. Je m'ouvrais pas assez, vraiment. Dès qu'il y avait un souci, j'avais tendance à éviter le truc et à faire semblant, tu vois, à faire semblant de gérer d'autres trucs ou de je sais pas. Vas-y, viens, on fait un autre truc, ou voilà, on sort, ou je sais pas. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais au final, avec le temps, c'est. En fait, t'apprends de tes erreurs, hein, c'est con à dire, mais t'apprends de. Enfin, en plus, c'est vraiment. Tu te rends compte que ça coûte vraiment rien et que c'est beaucoup mieux en le faisant. Et c'est un truc qui t'aide à la fois dans tes relations amoureuses, même dans tes relations avec les gens et ta famille. Et je pense que ce déclic-là, je l'ai eu peut-être quand j'avais, je sais pas, je dirais 16 ans, 16, 17 ans. Et ça m'a aussi aidé, même dans ma relation avec ma famille, parce que je m'ouvrais plus avec ma sœur, avec ma mère, et on a pu avoir des discussions qu'on n'avait jamais eues.
Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, que t'aurais bien aimé, des sujets que t'aurais bien aimé aborder dans le Boys Club? Dans le Boys Club.
Ah bah tu vois, tu fais le lapsus. J'avais pensé à des questions, mais là évidemment je les ai oubliées parce que le stress.
T'es stressé?
En vrai l'exercice est.
Il est chiant.
Non, au contraire c'est pas chiant, mais c'est un. Enfin, ta question de par exemple c'est quoi être un mec, c'est une question que jamais je vais me poser naturellement. Je vais pas me poser le mardi soir en faisant mes pattes et me dire putain c'est quoi être un mec. et c'est bien en fait d'avoir. Enfin, c'est effrayant. C'est un truc qui me stresse parce que voilà, comme j'imagine beaucoup d'invités aussi, t'as la peur de dire une connerie, t'as la peur de machin, etc. Mais juste c'est stressant de faire un truc que tu fais pas forcément d'habitude. Et parler masculinité avec un mec, et parler de c'est quoi être un mec avec un mec, je le fais pas des masses. Même dans mon cercle actuel, tu vois, on a assez peu ce genre de discussion. Donc ouais, c'était un peu stressant, donc du coup j'étais un peu stressé. Et d'ailleurs, ouais, juste pour revenir au fait d'être jeune, même si ça s'est équilibré aujourd'hui, t'as toujours ce rapport jeuneau et personne plus âgée. Typiquement, quand je suis rentré à GK,
Game Cult,
oui. Il n'y a aucune malice ou quoi dans ce que je veux dire, mais il y avait quand même beaucoup de vannes sur mon âge. Et le rédacteur en chef de l'époque, en fait, lui, il faisait beaucoup, beaucoup de vannes sur mon âge. Et à la limite, que lui les fasse, tu vois, ça me bouleversait pas trop. Mais c'est quand ça s'inscrivait dans des dynamiques plus globales, où les lecteurs, par exemple, considèrent que si lui les fait, ils peuvent les faire. Et où tu recevais parfois beaucoup de messages et les gens te voient comme la personne jeune. Il y a une forme de jeunisme nul.
T'as fait 21 ans, c'est ça quand
20 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans même, ouais, quand je crois. Attends. 2018, ouais, 20, ouais.
Et ouais, de ce fait-là, tu souffrais de ça aussi, c'est ça? Ça va un peu mieux maintenant?
En fait, vis-à-vis de l'équipe, par exemple, si quelqu'un me vanne sur mon âge et que c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai aucun problème. Et voilà, c'est une vanne et c'est l'humour. Mais dès qu'il y a par exemple quelqu'un là, en fait c'est le problème d'un métier où il y a une certaine entre guillemets exposition publique, c'est que parfois quand ces vannes là elles sont visibles soit face caméra ou soit que on s'envoie des fions sur Twitter ou compagnie, parfois du coup les gens là peuvent s'y mettre et j'avoue qu'à un moment c'est pas que ça fait souffrir hein, mais juste ça désespère hein, et ça désespère un peu d'être attaché à ce truc de. Comment dire ? Dès que tu vas émettre un avis qui est différent de celui de quelqu'un, ou dès que tu vas peut-être faire une erreur ou quoi, directement l'excuse ou le truc qui va ressortir en premier, c'est « Putain, mais qu'est-ce qu'il y connaît ? Il était pas né. » Ou « il a 12 ans, de quoi il parle ? Mais il peut pas connaître, machin, et tout. » Et ouais, c'est un truc qui me saoule un peu, le jeunisme.
Bah, plus ça va passer.
Évidemment. J'espère. J'espère.
Non, mais je me reconnais parce que j'ai beaucoup été dans ta situation, à souvent être pas en avance à l'école, mais j'ai bossé très tôt, etc.
Ouais.
Et donc forcément, en fait, j'étais le jeune, quoi, tu vois.
Ah bah ouais, carrément.
Et bah maintenant, ça va mieux.
Parce que t'es devenu le vieux.
Tu l'as. Ça finit par passer.
Non, mais ça va, en plus, j'ai la chance d'être entouré de gens cool, et ça va. Et même dans les tafs en restauration que je faisais, c'était quand même que des jeunes, parce que c'était des jeunes comme moi qui étaient étudiants, donc il n'y avait pas de soucis vis-à-vis de ça.
Comment ça va ta bite ?
Écoute, ça va plutôt bien. Voilà. Oh
non,
mais attends,
Voilà. Non, mais tu vois, notamment dans toute cette histoire de décalage, comment t'as vécu ce truc de vivre avec des mecs qui ont 2-3 ans de plus que toi dans les vestiaires de sport? Je sais pas si vous montriez votre bite ou je sais pas quoi.
Bah, c'est pas un truc que tu fais volontairement, tu vois, mais ouais. Fatalement, tout le monde voit la table de tout le monde parce que après l'entraînement, c'est tout le monde va prendre sa douche et voilà. J'étais constamment entouré de gens qui avaient tout le temps une plus grosse top que moi parce que j'étais beaucoup plus jeune, et ça avait nourri des complexes. Là aujourd'hui ça va mieux puisque
tu es pubère,
voilà,
c'est ta puberté.
J'ai enfin passé la puberté là avant-hier d'ailleurs, j'en suis vraiment content. non, ça va mieux, mais c'était pas vraiment des vannes, des insultes directes, mais il y avait quand même parfois des trucs où je chantais que j'étais mis à l'écart ou mis de côté, et ça nourrissait des complexes. Et
comment t'as fait pour les dépasser?
J'ai appris à m'en foutre. J'ai appris à vraiment m'en foutre du physique, à considérer juste que le physique c'était le physique. Et ok, bah genre super, t'as une plus grosse bite que moi, bah en attendant moi j'ai pas, enfin je sais pas, enfin je trouvais des
attends, j'ai pas.
Je trouvais des excuses, tu vois. Enfin, t'as parfois des il y a beaucoup de gens qui vannaient, enfin il y avait même dans les sports que je faisais à côté de l'école, il y avait toujours des vannes sur le physique tout le temps. On avait un mec dans l'équipe de basket qui avait 3 doigts en fait à chaque main. Donc c'était une malformation de naissance, et genre tout le monde le vannait par rapport à ça, et tout le monde constamment lui avait l'air de bien le prendre, mais au fond je sais pas si tous les jours te faire vanner parce que t'as 3 doigts, je sais pas si tu le prends bien, tu vois. Donc non, moi j'ai appris à m'en foutre. Il y avait une fois, je crois, où c'était allé vraiment loin, et il y avait mon daron qui était venu parce que j'en avais parlé, et il s'était genre énervé direct au quart de tour. Il était parti il avait pris la caisse à l'entraînement, il était venu me voir, il avait gueulé sur les autres enfants. Je sais pas si c'est la bonne façon de gérer ça. je pense pas, mais on aurait pu genre par exemple en parler à l'entraîneur avant de venir gueuler dans les vestiaires. Après ça va, enfin, franchement comme tout s'équilibre, après il y a pas trop eu de...
Ça va mieux aujourd'hui.
Ça, voilà, ça va mieux aujourd'hui.
Merci Valentin.
Mais merci Fab.
Alors si vous voulez suivre Valentin sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens. T'as aussi une chaîne Twitch où tu testes des jeux auxquels personne n'a jamais joué, auxquels tu n'as pas joué, pardon, auxquels a priori
auxquels tout le monde a joué,
tous les autres joueurs ont joué sauf toi.
Par exemple, ouais, j'avais fait Metal Gear Solid que a priori toute la terre entière a fait, mais pas moi. Et là, en ce moment, je suis sur les jeux les Dark Souls. Donc des jeux assez durs quand même.
Assez punitifs, où t'en prends plein la gueule.
C'est généralement là que ma masculinité virile, tu vois, de mal alpha ressort quand je m'énerve, je tape sur le bureau.
C'est vrai que t'arrives à rester particulièrement calme. Je pense que moi, je pèterais des plombs, quoi.
Je sais pas comment je fais. Il y a un collègue qui m'avait regardé jouer, il fait, mec, je sais pas comment tu... Enfin... T'as l'air si patient et résilient, et au final, pas du tout. Enfin...
Ah ben si, de l'extérieur, je te promets.
Ouais, mais c'est...
Comment ça, pas du tout?
Après, t'as aussi la pression du live. Tu vas pas lancer un live sur un jeu si au premier boss, t'arrêtes de jouer et tu fermes le live. Donc t'as aussi ce truc qui te force à continuer.
Mais c'est raison de plus, c'est d'autant plus dur pour moi d'interagir avec les gens. Parce qu'en plus, t'es en train de jouer... c'est tout le principe de Twitch, hein, mais t'es en train de jouer, donc t'es en train de discuter aussi avec les gens en direct. Et effectivement, tu te fais parfois bolos par le jeu tellement fort que et tu restes serein et zen.
Je tente de manger mes dents discrètement, de vraiment pas m'énerver. Et après, je souffle un coup et je fais « On y va ? On repart ?»
En tout cas, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, si vous avez Twitch, pour venir suivre les aventures de Valentin sur Twitch.
Ben merci.
Merci à toi en tout cas, c'était chouette de te parler.
Ben merci à toi pour l'invitation. C'est encore une fois pas un exercice auquel je me livre très souvent, mais que je suis super content de faire.
Trop bien.
Ouais, merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté.
Do you ever feel like your brain is on overdrive? and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.